Si vous avez écouté les derniers épisodes, vous savez que je prépare depuis plusieurs semaines un nouveau format sous forme de mini-série, 3 à 5 épisodes pour décortiquer une thématique spécifique, avec à chaque fois un expert du sujet. Et là, vous vous apprêtez à écouter le premier épisode de la première mini-série avec pour thématique les enfants HPI. On ne fabrique pas de HPI avec une surstimulation intellectuelle ou culturelle, mais on est avec ce mode de fonctionnement spécifique. Le savoir et le comprendre évite un grand gaspillage pour ces enfants et leurs parents confrontés de bonne heure à des situations d'incompréhension mutuelle entre eux et leur environnement. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Franck Robert. Après 25 années d'expérience dans l'éducation nationale, il crée en 2020 un cabinet de conseil, de formation et d'accompagnement pour les adultes et enfants HPI, intitulé Inclusive et installé à Toulouse. Ensemble, dans cette mini-série, nous avons parlé de l'anxiété, de la communication, du harcèlement et pour finir sur une note positive, des HPI qui vont bien avec, à chaque fin d'épisode au minimum, une clé pour vous aider si vous êtes confronté à la problématique abordée. Si vous aimez ce podcast, qu'il vous aide dans votre quotidien à mieux vous comprendre, je vous invite à laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue sur Heureux et Surdoué Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour vous aider à bien vivre le vôtre. Pour commencer et bien poser le cadre, j'ai demandé à Franck de nous expliquer le haut potentiel comme il le ferait avec les enfants qui l'accompagnent.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour parler du HPI chez les enfants, on va imaginer qu'ils ont un don et qu'une fée s'est penchée sur leur berceau. Et cette fée, elle porte un nom, elle s'appelle myéline. La myéline, c'est une gaine qui est grasse, qui est dans le cerveau et qui entoure les neurones, les bras entre les neurones et les nerfs à l'intérieur du corps. Et cette substance, elle existe chez tous les vertébrés. La nature l'a créée chez tous les vertébrés parce que il y avait un grand défi à relever pour la nature dans l'espèce de rapidité de transmission de l'information. Alors, pour faire un tout petit peu d'anatomie et de physique en même temps, les neurones communiquent entre eux avec des bras qu'on appelle les axones. Et ces bras, en fait, véhiculent des informations par impulsion électrique. On le sait maintenant et on fait de l'anatomie sur ça.
Démontré par les images IRM.
Exactement, c'est démontré par les images IRM depuis très longtemps. Et en physique, on sait que la conduction électrique, en fait, il y a une déperdition le long du fil électrique. Plus le fil est long et plus l'intensité électrique baisse. Donc, dans le cerveau, il y a exactement le même phénomène. C'est qu'entre deux neurones, l'intensité électrique va baisser, même si la distance est très courte, mais ça va baisser. Et donc la nature a inventé une gaine isolante, comme on fait nous-mêmes avec nos fils électriques, qui s'appelle la myéline, et qui est produite en très grande quantité chez tous les vertébrés. Elle permet de garantir en fait l'intensité du courant électrique dans l'information. Cette myéline, elle est produite par une petite cellule qui s'appelle l'oligodendrocyte, c'est une usine à myéline. Cette usine, elle garantit la fabrication, la nourriture, la réparation, si jamais il y a un problème avec cette gaine. Chez les HPI, cette petite usine oligodendrocyte a un fonctionnement qui est anormal, c'est-à-dire qui est différent du reste de l'espèce. Elle produit beaucoup plus de myéline que ce qui est attendu chez les autres individus. Donc du coup, il y a beaucoup, beaucoup de myéline chez les HPI. On s'en est rendu compte, en fait, aux IRM, c'est qu'on avait une grosse masse qui apparaissait, mais en grande quantité. Et en fait, il y a beaucoup de myéline, tout simplement. Qu'est-ce que ça produit au niveau physique? Eh bien, puisque la gaine est plus épaisse, on a une déperdition électrique moins importante. Donc, l'information entre deux neurones va circuler plus rapidement, puisqu'elle ne perd pas en intensité comme avec les autres. Donc, on va garder le premier mot clé sur le HPI, c'est « vitesse ». C'est que cette information, en fait, elle va garder sa vitesse parce qu'elle n'est pas ralentie par une déperdition. Okay. Parce qu'il y a plus de myéline. Premier mot, vitesse. Deuxième mot clé sur le HPI, c'est que puisqu'il y a des informations qui circulent très rapidement, dans le même temps donné, il peut y avoir deux, trois informations qui circulent alors que chez les autres, il n'y a qu'une seule information. Donc deuxième.
Donc d'où cette impression que ça se bouscule des fois.
Exactement. Okay. Deuxième mot, intensité. Premier mot, vitesse. Mmh. Deuxième mot, intensité. Et on a un troisième mot clé que j'expliquerai tout à l'heure, qui est profondeur. Donc si on doit quand même, on doit commencer à comprendre le HPI, retenez trois mots clés: vitesse, intensité, profondeur. Et voilà. On a juste un cerveau et un corps où les informations circulent de façon très rapide et très nombreuse. Donc ça donne cette impression dans le cerveau d'être foisonnant tout le temps, qu'il y a du bruit constamment, qu'on a des très bons réflexes la plupart du temps. Et ces trois caractéristiques-là vont avoir un impact sur le fonctionnement des zones du cerveau. Voilà. Donc la base, c'est cette histoire de myéline. Il y a beaucoup de myéline dans le cerveau et on n'y peut rien parce que c'est génétique. Okay. C'est un fonctionnement de l'usine à myéline qui est différent pour certains individus. Peut-être parce que la nature, chez une tribu sur la surface de la planète, a eu besoin de leur faire accélérer leurs réflexes, et que du coup, bah, cette tribu-là, il y a eu plus de myéline. Ouais,
on n'en sait pas rien. L'origine, en fait.
On connaît pas l'origine, mais on peut l'imaginer comme une modification en fait génétique. Par exemple, on plus de mélatonine chez les personnes à la peau noire, ou les yeux qui sont bridés pour une raison quelconque, etc. La nature, en fait, a trouvé un moyen de les aider à survivre, et c'était un apport de myéline plus grand pour pouvoir être plus rapide et plus intense. Donc il faut vraiment garder cette histoire du HPI, que c'est une différence génétique qui permettait de répondre à un besoin pour une partie de l'espèce. Donc c'est pas une anomalie, on n'est pas étrange, on n'est pas moins humain, on est une spécificité de l'espèce. Voilà. Et donc ça, c'est très important, et c'est ça qui explique le HPI. Et je finis comme c'est génétique, il y a une chose qui est très importante, c'est donc héréditaire. Et donc, héréditaire, ça doit faire penser aux parents que quand on a un enfant HPI, au moins un des deux parents est concerné par le HPI. Et ça, c'est une information essentielle dans le suivi du noyau familial.
Moi, ça me fait penser à une chose, c'est que du coup, ça veut dire qu'on est HPI, qu'on vit toute sa vie HPI, qu'on meurt HPI, en fait. Exactement. C'est pas quelque chose qui se développe avec l'éducation, hein, ou dans l'enfance, ou à l'âge adulte. En fait, c'est quelque chose qui nous accompagne tout du long.
Complètement. En fait, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Il y a cette croyance qu'on fabrique des HPI par l'éducation culturelle de la famille. C'est totalement faux. D'accord? Il y a parfois des enseignants, notamment en maternelle, qui disent « Ah, mais il est plus brillant uniquement parce que vous le sursollicitez. » D'accord? Non, on ne fabrique pas un profil HPI par une sursollicitation intellectuelle ou culturelle.
C'est là où on confond justement le côté brillant et le fonctionnement HPI.
Complètement. Donc le HPI, en fait, c'est dès la naissance, d'accord? Par contre, il y a une chose très importante, et on reviendra dans un autre épisode, sur le fait que le HPI, c'est un potentiel, mais qui ne s'exprime que sous certaines conditions. Donc on peut être porteur du profil HPI et ne pas l'utiliser durant toute sa vie, d'accord? Et notamment dans les générations avant nous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, parce que comme on est HPI, nos arrière-grands-parents l'étaient forcément, mais ils étaient dans un environnement qui leur a pas permis d'exprimer ce HPI forcément. Ouais, Donc, du coup, quand on pense à nos grands-parents, souvent on dit « non, ils l'étaient pas » ou « on voit pas les signaux ». Donc on n'a pas plus de HPI dans le monde actuellement, parce que ça c'est aussi une question que les détracteurs nous posent. « Ah, mais on en détecte tellement plus, qu'est-ce que c'est ?»
C'est une nouveauté.
C'est une nouveauté, c'est inédit. Ouais. Non, c'est faux.
C'est un effet de mode.
C'est un effet de mode, exactement. En fait, le HPI existe dès l'Antiquité. On en a des traces dans les travaux de Platon. On sait qu'il y avait des enfants qu'on appelle les puercénex, qui étaient des enfants vieillards. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient l'apparence des enfants, mais ils parlaient comme des vieillards. Donc on en a vraiment des traces. Donc c'est une spécificité de l'espèce qui est très ancienne. Okay. Très ancienne. Donc c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, il n'y a pas de mode, etc. Par contre, on le prend en compte beaucoup mieux. Et l'important, c'est que il n'y a pas plus de HPI, par contre, il y a moins de gâchis de HPI. C'est-à-dire qu'on arrive plus à le détecter, on arrive plus à l'activer et en fait faire en sorte qu'il s'exprime de façon claire et nette.
Oui, puis on est aussi à une période peut-être clé de notre société où aujourd'hui, on a plus de choix, plus de possibilités dans la manière de mener nos vies que les générations précédentes que tu citais tout à l'heure, qui étaient sur des rails et qui devaient suivre en fait le chemin pour lequel elles étaient prédestinées. Elles avaient peut-être moins la possibilité d'exprimer cette différence, en fait, de lui donner de la place.
C'est totalement vrai. Totalement vrai. On est dans un moment de la civilisation, alors en Occident, faut toujours faire très attention parce qu'il y a vraiment des courants différents.
Il y a forcément une façon de penser où on est centré sur le centre de notre monde. Et donc là, à Rennes actuellement. Ouais,
donc dans l'Occident, la civilisation occidentale a passé en fait un cran qui est l'inclusion et la diversité de l'espèce. Donc dans cette ouverture d'esprit où on prend en compte le handicap, les troubles cognitifs, etc., le HPI bénéficie en fait de l'ouverture d'esprit. Pas dans les mêmes circonstances et pas dans les mêmes, largeurs, mais, alors attention, je le dis, hein, parce que il faut pas faire l'amalgame, le HPI n'est pas un handicap, le HPI n'est pas un trouble cognitif, le HPI est une spécificité cognitive, d'accord ? Mais dans le champ du, dans le champ de la diversité cognitive, le HPI est le seul qui ne soit pas vu comme un handicap. Il est très important de le mettre à part. Mmh. Et dans l'anxiété, il y a une première chose que je dis souvent aux parents, c'est ne parlez pas de diagnostic.
Ouais. On va d'accord. y revenir après,
justement. On va en revenir, d'accord? Mmh. Mais ça, c'est très important parce que ce qui crée une anxiété déjà chez l'enfant, c'est d'entendre diagnostic du HPI parce que ça sous-entend une maladie. Et ça sous-entend qu'il y a des symptômes. Et ça sous-entend aussi une erreur, c'est qu'on va en guérir peut-être.
Oui. Et puis, quand on sait que le vocabulaire a une importance et le sens des mots a une importance absolument primordiale pour les HPI.
Exactement.
C'est vraiment important d'utiliser les bons mots pour parler des bonnes des choses associées.
Donc le HPI, c'est une différence cognitive qui n'est pas dans le champ du handicap ou du trouble.
Ok. Merci Franck, du coup, pour cette introduction. Maintenant qu'on a posé les bases, je pense qu'on va pouvoir, du coup, se lancer dans notre premier sujet, notre première thématique. Donc quand on s'était réunis tous les deux, le premier sujet qui t'était venu à l'esprit, c'était l'anxiété. Tu m'avais dit anxiété ou angoisse chez l'enfant HPI. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce qui génère cette angoisse ou dans quoi est-ce qu'elle trouve son origine ?
L'angoisse chez l'enfant HPI, c'est l'angoisse qu'on ressent quand on est adulte aussi. Mais la première cause d'angoisse chez un enfant HPI, c'est cette sensation qu'il a dès la petite enfance de pas être comme les autres. Et ça, le bébé à la crèche voit particulièrement bien qu'en fait, il y a quelque chose de différent chez lui. Il le verbalise pas, il le conscientise pas, mais il voit qu'il n'est pas comme eux, comme les autres, comme les copains, copines. Et les adultes aussi se comportent de façon différente avec lui. D'accord? C'est imperceptible, c'est vraiment...
C'est du ressenti.
C'est du ressenti, et parfois, moi, j'habite à côté d'une crèche associative. Et les responsables de la crèche, en fait, sont venus me voir, parce qu'elles savent que je m'occupe du HPI, elles sont venues me voir en disant, cet enfant-là, il a 2 ans et demi, est-ce qu'il serait pas HPI parce qu'il se comporte différemment? Donc, il y a des signaux. Donc, on sait que le HPI, en fait, il s'exprime très très tôt. Okay. Très tôt.
C'est chouette quand même, déjà, qu'il y ait cette démarche, ce questionnement, cette curiosité, cette envie de comprendre de leur part.
Donc, l'enfant HPI, en fait, il s'en rend compte. Et donc, il va commencer à formuler une espèce de sensation de pas être comme les autres. Et on sait qu'on est une espèce grégaire. On a besoin d'être en groupe, en meute, en troupeau. Mmh. D'accord? Et donc, il y a quelque chose qui va le mettre mal à l'aise.
Et de sentir qu'on appartient, en plus. Il y a un sentiment d'appartenance.
Exactement.
Au groupe.
Exactement. Donc, il va se sentir mal à l'aise. Et puis, il va se passer autre chose, et on en reparlera sur le champ des émotions. C'est qu'il a des émotions qui sont très intenses. Et donc, il voit bien qu'à un moment, ses émotions, elles peuvent poser problème. Mmh. Ou que, il a des colères qui sont extrêmement intenses, au-delà de ce que les copains-copines peuvent marquer. Ou qu'il va pleurer beaucoup plus. Ou qu'il va rire aux éclats beaucoup plus que les autres. Donc, il sent sa différence. Et cette angoisse, elle prend racine vraiment dans cette sensation d'être en décalage avec son environnement. Et ça continue en grandissant. Et comme on ne va pas apporter forcément les réponses qui permettent de se valider, on en reparlera plus tard, mais comme l'enfant va grandir dans un environnement qui ne prend pas forcément conscience de sa spécificité...
Mmh. Et qui ne va pas l'encourager à la développer.
Et qui ne va pas forcément l'encourager.
Pousser vers
une
attitude où il faut être comme les autres.
Voilà. Mmh. Et qui va plutôt marquer sa différence. Mais pourquoi t'es comme ça? Tu pleures trop, etc. On en reparlera. Qui va avoir tendance à, au contraire, mettre le doigt sur sa différence. Eh ben, il y a cette sensation d'être anormal. Et d'être bizarre. Souvent, les enfants HPI me disent, mais on me traite de bizarre, en fait, ou je suis détraqué, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et là, ils ont une angoisse. Pourquoi ils ont une angoisse? Et elle est renforcée parce qu'ils n'ont pas les clés.
Ouais.
Ils ont absolument pas les clés de savoir pourquoi ils sont différents. Enfin, ou ils ont pas une différence physique. ils n'ont pas quelque chose de différent, la famille ressemble à toutes les autres familles, ils vont à l'école comme tous les autres, enfin, il n'y a rien qui justifie qu'ils soient si différents. Donc, ils n'ont aucune clé, en fait. Et donc, ils se disent, c'est moi, je ne vais pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Mmh. Et donc, cette angoisse, elle commence avec ça, et avec toutes les représentations qui vont être mises bout à bout, au fur et à mesure de son développement, à l'école, au collège, au sein de la famille, avec les copains, dans les associations, etc. Donc en fait, il y a toute cette sensation de différence. L'enfant HPI souvent voit qu'il n'arrive pas à maîtriser les codes, ou que ça se fait pas aussi facilement que ça se fait avec d'autres, ou qu'il est un peu ségrégué, qu'il n'arrive pas à travailler en groupe, par exemple, ou que quand il est à l'intérieur d'une équipe, il faut faire de très gros efforts en fait pour s'intégrer et se faire accepter, que ça marche plus ou moins bien. Donc il y a plein de choses qui dans sa tête...
Ça marche temporairement.
Ou temporairement.
Donc il y a aussi cette succession d'échecs parfois dans les tentatives qui peut être problématique et ancrer l'impression, le sentiment que j'ai un problème. C'est quoi mon problème ?
J'ai un problème et surtout, parce que quand j'ai un problème, par exemple, quand je suis malade, j'ai le nez qui coule ou quand je tousse ou que je me suis fait une blessure, j'ai ce qu'il faut pour guérir ou pour changer. Mais là, j'ai un problème, je ne sais pas ce qu'est le problème et je ne sais surtout pas comment je peux revenir dans la norme.
Ah oui, je ne sais pas quelle est la solution, puisque je ne sais pas quel est le vrai problème.
Exactement. Et autour de moi, les personnes qui sont censées s'occuper de moi, c'est-à-dire mes parents, ils n'ont même pas, eux, la réponse. Ouais. Parfois même, ils sont une partie du problème, mais ils n'ont même pas, en fait, les clés pour pouvoir m'accompagner, parce que les parents ont eux-mêmes leurs propres difficultés à gérer cette différence, cette atypicité chez leur enfant, parce que ça les remet aussi en cause, eux, dans leur parentalité, l'image qui s'était faite de parents.
Ou ça leur renvoie à des choses de leur propre enfance.
Exactement.
Qui ne sont pas forcément confortables.
Et aussi. Donc, l'angoisse chez l'enfant, elle vient d'une chose importante, c'est l'ignorance.
Ok.
Voilà. Et donc, l'enfant angoisse parce qu'il est ignorant de son profil, de son statut et des clés qui vont lui permettre, en fait, de s'accepter. Mm-hmm. Donc, il ne s'accepte pas, il ne sait pas pourquoi il n'est pas accepté, il n'arrive pas à s'accepter lui-même. Voilà. Donc, l'angoisse, elle vient de là.
Ouais. En fait. Ok. Tu m'avais parlé aussi d'une dyssynchronie entre le cerveau et le corps.
Alors ça, c'est très intéressant. On rentre en fait là dans le vrai logiciel du HPI. On a parlé de rapidité et d'intensité tout à l'heure. Il y a des zones du cerveau qui sont marquées par ces mots-clés. D'accord ? Donc il y a la zone des émotions, il y a la zone de la mémoire, il y a la zone de la prise de décision. Tout ça, c'est des zones à l'intérieur cognitives, des fonctions cognitives qui sont marquées par l'intensité, la vitesse et la profondeur. Bon. Donc ce cerveau, en fait, il va penser plus vite. Il va penser de façon plus intense et plus profonde. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il mature plus vite. D'accord ? Donc, il y a des idées qui vont se coller, qui vont se construire. Et du coup, il va prendre, on va dire, de l'avance par rapport à l'âge biologique de l'enfant.
L'expression d'enfant vieillard que tu as utilisée dans l'introduction.
Exactement, c'est ça. Et donc, Jean-Charles Terrassier, qui est un psychologue français, qui a travaillé sur les enfants précoces dans les années 70, a très bien mis ça en lumière. Et il a appelé la dyssynchronie. C'est-à-dire que l'esprit et le corps ne sont pas en synchronicité. Ils ne sont pas au même temps de développement. Mmh. Donc le cerveau, l'esprit va être en avance. D'accord ? Terrassier a essayé de mesurer de combien d'années il est en avance pour essayer de donner une représentation pour pouvoir faire de l'éducation efficace. Il a utilisé un stratagème qui est totalement artificiel. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Mais il dit, il y a donc un QI qui est plus avancé. Puisque c'est un enfant qui, pour sa classe d'âge, va avoir des points de QI plus élevés. On rappelle que le HPI, ça commence à 130 de QI, 125, 130, on est dans ces eaux-là. Donc c'est un QI qui est plus élevé. Le QI, je fais juste une parenthèse aussi pour diminuer les croyances et l'anxiété autour du QI. Le QI, c'est une mesure d'une capacité intellectuelle sous stress. On met le cerveau face à des épreuves qui le stressent, et on va voir à quel point il répond à ce stress par des capacités intellectuelles. D'accord ? Donc typiquement, le HPI va répondre ou pas. Donc, on est forcément à partir de 130, quand on a un profil HPI, qu'on est enfant, ou même qu'on est adulte. Terrassier a dit, on va prendre le nombre des dizaines du QI, et ça va représenter le nombre d'années d'avance du cerveau. D'accord. Donc, si on est à 130 au minimum pour un enfant HPI, on prend le chiffre des dizaines, c'est 3. Donc, chaque enfant HPI, par définition, a 3 ans d'avance dans sa tête par rapport à son corps. Alors, c'est pas très vrai quand on est tout petit. D'accord. Mais par contre, les tests de QI commencent aux alentours de 6-7 ans. D'accord. Parce qu'avant, il y a une mesure de QI, mais qui est contestée. Donc à partir de 6-7 ans, on peut considérer qu'un enfant HPI va avoir 3 ans d'avance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand l'enfant a 7 ans, biologiquement, dans sa tête, il a 10 ans. Okay. Donc il va commencer à penser à 10 ans. On continue, d'accord? C'est ça qu'on appelle la précocité. On continue, on avance. Un enfant qui rentre au collège, il a 11 ans. Dans sa tête, il a 3 ans d'avance. Donc il est en 6e, mais dans sa tête, en fait, il pourrait être en 4e.
Ouais.
Voire début de 3e, ouais. Dans sa façon de comprendre le monde, etc., etc.
En fait, 3 ans, c'est énorme. Quand on pense en cycle de scolarité, qu'on se dit que le collège, ça fait 4 ans, ça veut dire qu'un 6e, l'enfant qui rentre en 6e, finalement, il a la maturité de ceux qui sont presque prêts à quitter le collège.
Quasiment, ouais. En fait. Et on voit des enfants de 6e. Moi, je vois des enfants de 6e qui tiennent un discours de 4e. Et qui, du coup, s'ennuie avec des enfants de 6e. La dysynchronie, en fait, il y a plein d'impacts sur le développement de l'enfant. Et ça, c'est une clé très importante aussi pour les parents, c'est que cette dysynchronie, elle crée chez l'enfant de l'angoisse aussi. Plus que l'angoisse aussi de se sentir en décalage, l'enfant sent que dans sa tête, il est capable de faire des choses qui sont au-delà de son âge. Donc prenons un enfant globalement qui a 12 ans. D'accord, 12 ans, il est en fin de 6e, 5e, que ça soit un garçon ou une fille. Dans sa tête, on va être aux alentours de 15-16 ans. Souvenez-vous de votre propre adolescence, votre propre puberté. Il se passe beaucoup de choses entre 12 et 16 ans. D'accord ? Et donc, il y a des envies, il y a des capacités de discussion, il y a des concepts abstraits comme la liberté, la mort, l'infini.
Des prises de conscience.
Des prises de conscience. Il y a des questions métaphysiques qui sont dans la tête d'un enfant HPI, qu'un enfant de 12 ans, qui n'est pas HPI, n'a même pas. Donc l'enfant qui a 12 ans, qui va commencer à poser ces questions-là, qu'est-ce qu'il a comme réponse autour de lui parmi ses pairs? Rien. Il n'y a aucun enfant de 12 ans qui peut lui répondre. Donc déjà, ça c'est mort. Il ne peut pas communiquer sur ça. Les parents, il va poser des questions. Déjà, les parents normalement prennent une grande secousse, s'aperçoivent qu'on a un enfant qui commence à parler de ça bien avant, d'accord? Et donc s'ils sont en capacité à y répondre, tant mieux, mais s'ils ne sont pas en capacité d'y répondre eux-mêmes, bah de nouveau, on n'a pas de réponse, d'accord? Donc l'enfant qui vit une dysynchronie très forte, et tous les enfants HPI ont une dysynchronie par définition, et ben du coup, ils sont dans un monde angoissant, parce qu'il n'y a pas de réponse.
D'accord.
Et ils sentent bien qu'ils sont aussi en décalage à cause de leur tête, et qu'il n'y aura pas de réponse. Et alors là, il y a un impact énorme dans la scolarité, et on en reparlera aussi, la dysynchronie, ça fait des enfants qui sont en retard scolaire. Les enfants HPI, Terrassier disait, les enfants HPI sont en retard scolaire. Parce qu'on leur enseigne des choses de 6e, alors qu'ils ont les capacités d'enseigner des choses de 4e, par exemple.
Mmh.
D'accord ? Et donc, du coup, on les maintient dans un bain cognitif qui est en retard sur leurs capacités. Donc, c'est des enfants qui sont en retard scolaire. C'est pas des enfants qui ont des lacunes, mais ils sont en retard scolaire. Et ça, c'est très difficile à vivre aussi.
D'accord.
Ils ne comprennent pas, ils savent pas pourquoi. Ouais. D'accord ? Donc, ils s'ennuient, ils en veulent aux adultes, etc., etc. Donc, l'angoisse, elle vient aussi de cette dysynchronie, sans avoir la réponse de « bah oui, mais dans ta tête, t'as de l'avance ». Tu voudrais avoir 15 ans alors que ton corps n'en a que 12. Et donc tu vas réclamer des choses comme si tu avais 15 ans. Par exemple, commencer à vouloir conduire, commencer à vouloir sortir le soir, avoir des discussions. Mais en fait, les gens ne voient chez toi qu'un être de 12 ans. Donc ils comprennent pas ça, ils peuvent pas y répondre. Donc la dysynchronie, c'est la deuxième clé en fait. Première clé, l'ignorance. L'enfant ignore ce qui lui arrive. Ouais. Deuxième clé, il pense en décalage avec son âge. Mmh. Et ça, ça pose problème dans beaucoup de secteurs.
Alors, écoute, je pense que c'est vraiment intéressant. Il y avait aussi... j'avais une question autour de ces angoisses. Est-ce que c'est possible de les classer? Est-ce qu'on les a identifiées? Est-ce qu'il y a des angoisses qui reviennent plus que d'autres?
Alors, on a identifié 5 angoisses chez le HPI. C'est des angoisses que tout le monde a. D'accord? Qu'on soit HPI, pas HPI. C'est des angoisses totalement humaines. Mais chez les HPI, elles sont très fortes, puisqu'elles sont très intenses, souvenez-vous, hein, intensité, deuxième mot-clé, elles sont très intenses et on les retrouve chez tout le monde, et souvent on les a y compris quand on est adulte. Alors je vais essayer de les citer, parce qu'il y en a toujours une qui m'échappe, mais la peur de l'inconnu. La peur, en fait, de ce qu'on ne peut pas maîtriser.
Deuxième... Il y a beaucoup de choses.
Alors, il y a beaucoup de choses qui est dans l'inconnu et on ne peut pas maîtriser. Choses. Donc, ouais. Par exemple, l'univers, la mort, d'accord ? Donc, tout ça, ça fait peur. La peur de l'échec, parce que ça signifie beaucoup de choses sur notre propre valeur. Alors, tous les enfants ont peur de l'échec, hein, globalement. Mais chez les enfants HPI, il y a des implications qui sont encore plus grandes sur leur capacité intellectuelle, sur l'amour propre, l'amour des autres, la reconnaissance, comme c'est des enfants qui ont l'impression d'être en décalage et de pas être aimés pour qui ils sont, donc l'échec, c'est insupportable parce qu'en fait, même là-dedans, ils sont pas bons, d'accord? Donc ils ont peur d'échouer, il y a un stress de performance qui est lié, voilà.
Est-ce qu'ils ont tout le temps quelque chose à prouver?
Ils ont toujours quelque chose à prouver à leurs yeux, ils sont jamais à la hauteur.
Okay.
Ils se ressentent jamais à la hauteur. D'accord? Ils ont l'impression, en fait, qu'ils peuvent pas être aimés pour qui ils sont. Donc, il y a un syndrome de l'imposteur
c'est
qui
dur,
s'installe.
Hein.
Voilà. C'est souvent, c'est au primaire, hein. La peur de l'échec, elle s'installe à partir du moment où on commence à faire des évaluations de façon un peu plus structurée. Donc, du coup, c'est là qu'ils construisent une valeur de soi qui est liée à la valeur scolaire.
Ok.
D'accord? Bon. On y reviendra peut-être, mais ça nous emmènerait trop loin. La peur de l'abandon. Parce que, bah, puisque je corresponds pas, peut-être on m'aime pas assez. Donc, peut-être qu'on va se débarrasser de moi ou que, voilà, on va me mettre de côté. Donc, j'ai peur qu'on m'abandonne. Et ensuite, il y a la peur, il y a la peur du vide. Je suis sûr que j'ai oublié le cinquième. Il y a la peur du vide. Il y a la peur du vide, en fait, parce que ce cerveau qui est un cerveau logique, qui aime toujours manipuler les choses et qui a besoin de tourner, en fait, il n'aime pas qu'il se passe rien. Il ne peut pas.
Ouais, le rien est
le rien.
Ultra angoissant.
Ultra angoissant. Mmh. La peur du vide, ça fait que on veut que ça fonctionne tout le temps. Donc, elle, ça a une implication notamment sur deux choses. Un, sur l'ennui scolaire. Parce que s'ennuyer, ou même pas scolaire, hein, s'ennuyer, c'est insupportable.
C'est Carlos Tinoco qui explique dans ses livres ou dans ses vidéos qu'en fait, pour supporter cet ennui, lui, il s'en prenait au matériel. En fait, il détruisait ses gommes. Il écrivait sur son bureau, enfin, mais il fallait effectivement qu'il se passe quelque chose.
Il faut s'occuper tout le temps.
Voilà.
Et l'autre chose, c'est l'endormissement. Alors là, chez les enfants HPI, vous qui nous écoutez, je pense que ça va faire écho là. L'endormissement du HPI est très problématique pour des raisons différentes chez les enfants et chez les adultes. Mais chez les enfants, l'endormissement est compliqué. On a souvent des enfants qui ont besoin de s'endormir tard. Vers 22h30, 23h, ça correspond absolument pas au discours parental qu'on reçoit. Mmh. Il faut que les enfants soient couchés tôt, 20h30, 21h, parce qu'il leur faut des heures de sommeil, etc. Pour plein de raisons, en fait, l'enfant HPI ne veut pas et ne peut pas dormir très tôt. Il a besoin d'avoir d'épuiser son cerveau, en fait, d'aller au bout de son énergie cérébrale. Et parfois, ça suffit pas. Parce que quand on couche un enfant, dans le monde occidental, on le couche allongé, dans le noir et dans le silence.
Et rien que de dire ça, déjà, je sens que ça me stresse.
Voilà. Et donc, en fait, le noir et le silence, bah, c'est le vide. D'accord? Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de lumière, on ne voit rien, on est dans le néant. Et ça, le cerveau, en fait, il ne veut pas lâcher.
Ouais, c'est une petite mare, en fait. Hein.
Exactement. Exactement. Il ne veut pas lâcher. Donc, cette peur du vide, en fait, elle a un impact très fort sur l'endormissement. Alors, bonne nouvelle, il y a plein d'astuces pour favoriser l'endormissement des enfants HPI. Je vous en donne deux. Mm-hmm. Première astuce, il faut ritualiser l'endormissement pour, en fait, piéger le cerveau. Le cerveau, c'est un animal domestique. Et donc, si vous lui faites faire toujours les mêmes choses pour arriver à l'endormissement, il va prendre l'habitude. Et il va savoir qu'au bout de l'enchaînement des actions, on dort.
Okay.
Donc, il faut ritualiser le coucher. Donc, traditionnellement, c'est la mise en pyjama, c'est brossage de dents, c'est
la petite histoire,
le petit grattage de dos, parce que bizarrement, les enfants HPI adorent qu'on leur gratouille le dos, et ça fonctionne très bien pour les détendre, et une petite chanson, à la rigueur, une berceuse, pas forcément enfantine, mais voilà, vous allez faire un petit peu de bruit. Donc, si vous ritualisez complètement l'endormissement, au bout de quelques semaines, vous allez vous apercevoir que le cerveau, en fait, baisse d'intensité, les ondes vont changer, et il sait qu'au bout de tout ça, ben, on va dormir. Et du coup, l'enfant s'endort, parfois même pendant que vous chantez.
Mm-hmm.
D'accord? Et là, c'est parti pour la nuit. D'accord? Donc, le cerveau est un animal domestique qu'il faut éduquer à l'endormissement. Deuxième chose, ben, si ça marche pas parce que vous avez un cerveau particulièrement en retort, que l'enfant n'aime pas ritualiser ou que c'est pendant vos habitudes familiales, vous allez casser le noir et le silence. Donc, vous mettez la veilleuse. Il y a beaucoup d'enfants HPI qui dorment avec une toute petite veilleuse. Mm-hmm. Maintenant, on a, vous savez, des rubans de LED, de toute petite LED. On le met quelque part dans la chambre, ça fait très peu de lumière. Mm-hmm. Voilà. Mais ça casse le noir. Et surtout, on autorise à avoir une petite musique. Donc, il y a des appareils pour faire de la musique pendant un temps donné. Nos téléphones portables sont très bons pour ça aussi. Si vous voulez pas qu'il y ait des ondes à côté de votre enfant, bah, vous laissez une radio. Moi, je sais que ma fille, quand elle était ado, entre 14 et 17 ans, elle dormait avec la radio. Voilà, toute la nuit, une radio qui faisait de la musique, qui parlait pas, mais elle dormait. Et si elle se réveillait dans la nuit, elle avait de nouveau cette musique qui existait. Donc du coup,
s'endormir avec de la musique.
S'endormir avec de la musique. Donc vous cassez le vide.
Ouais.
Voilà. Et ça, ça marche extrêmement bien aussi. À un moment, ils vont s'en débarrasser en grandissant, en vieillissant. Donc voilà. Donc la peur du vide, c'est sur l'endormissement. Et ça, ça aide aussi l'angoisse, hein. L'angoisse de pas dormir. Les parents se crispent beaucoup, beaucoup sur le sommeil. Et donc ça aussi, ça participe à l'angoisse de l'enfant HPI. En fait, il se dit, mais j'aimerais dormir, je voudrais dormir, mes parents me laissent pas dormir, mon cerveau me laisse pas dormir. Voilà. Donc là aussi, on se détend, les enfants dorment. Alors on dit qu'il faut 10 heures de sommeil, 9 heures de sommeil, etc. Les enfants HPI qui ont 7 heures de sommeil, ça fonctionne très bien. Surtout qu'en plus, vous vous êtes peut-être aperçu, le week-end, ils rattrapent.
Ouais.
D'accord? Ils vont se coucher à 11 heures, mais ils vont se lever à 9 heures. Et là, vous avez rattrapé totalement le sommeil. Donc, en fait, c'est un fonctionnement qui est différent.
Okay.
Et la dernière angoisse, eh ben, je me souviens pas, peut-être on en avait parlé.
C'est la peur métaphysique.
Exactement.
Métaphysique.
Voilà. Merci, Sylvie. C'est la peur métaphysique, en fait. Toutes les questions qui n'ont pas de réponse. La mort. Donc, ça, c'est une source d'angoisse. Même avant la naissance, vous avez des enfants HPI qui disent, mais avant de naître, j'étais où?
Oui. Ouais.
Voilà. Avant, mon âme, elle était où? Je pensais à quoi?
Bien sûr.
À quel moment je me suis réveillé, d'accord ?
D'où je viens.
D'où je viens. Pourquoi on vit ? Quel est le sens de la vie ? Eh ben, vous avez des enfants à 10 ans, à 8 ans.
Et l'univers, il s'arrête où ?
Voilà.
Il commence où ?
Et pourquoi il existe ? Et qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que les choses sont éternelles ? Donc, toutes ces questions-là, en fait, on n'a nous-mêmes pas les réponses. Donc, vous imaginez un enfant qui n'a pas notre expérience d'adulte, qui a ces angoisses-là. Donc, il y a 5 angoisses, en fait, qui participent à cette anxiété.
D'accord. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que si tu peux nous donner une petite clé, là tu nous en as donné deux déjà pour l'endormissement, mais ce que j'aimerais, c'est que chacun de ces petits épisodes-là, on termine par une clé concrète, pragmatique, qui puisse aider les gens qui vont nous écouter. Donc comment est-ce qu'on peut calmer ces angoisses qu'on vient de citer de nos enfants ?
Alors, moi je vous propose de répondre à l'ignorance des enfants HPI, c'est-à-dire de verbaliser, vous, les parents, en fait, avec les clés, ce qu'on vient de vous dire, en fait, d'aller chercher des vraies réponses, à la fois en donnant de l'information. Alors attention, hein, parce qu'il y a tout et n'importe quoi, hein, sur Internet, dans les livres, etc. Donc, moi, je vous ai donné des informations sur le HPI au niveau neurobiologique. Vous pouvez le donner, moi, dans mes séances, la première séance de coaching avec les enfants et les parents, c'est cette information-là. C'est une histoire de myélite, point. Il y a des caractéristiques, il y a des impacts, il y a de la dysynchronie. Donc, intéressez-vous à ça, dans ce champ-là. Vous pouvez aller sur des sites qui parlent de ça. Alors, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'écrits sur ça. Il y a un écrit qui est chez Olivier Revol, qui est un auteur qui est très, très bon pour les enfants HPI.
Ouais.
Olivier Revol, il a écrit un livre sur 100 idées pour éduquer un enfant HPI. C'est un petit ouvrage qui est formidable, je le conseille à tout le monde.
Ok, on mettra Olivier, le lien dans
Olivier
le descriptif.
Revol. Ouais. Voilà, Olivier Revol, extraordinaire, ça va vous donner des informations. Et puis l'autre source aussi, c'est le travail de Chloé Romain-Gas sur son blog qui s'appelle Rayures au pluriel et Ratures au pluriel. C'est un blog, c'est une illustratrice, et elle en a sorti 2 bouquins qui sont extraordinaires de facilité d'approche, Rayures et Ratures de Chloé Romain-Gas, à partager avec vos enfants, en fait. Vous regardez ensemble, ça te ressemble ? Tiens, moi, je me ressemble, enfin, je me reconnais, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, c'est bizarre, on rigole, etc. Et donc là, on rentre dans le champ du HPI ensemble. Donc,
ça force en plus à Chloé, c'est d'illustrer
exactement
son texte avec des dessins.
Oui.
Chloé, qui est déjà d'ailleurs intervenue déjà dans le podcast,
voilà.
Qui a été interviewée, vous pourrez écouter son témoignage de la découverte du HPI dans les premiers épisodes du podcast.
Donc on diminue le niveau de méconnaissance.
Ouais.
Et ça, l'enfant qui s'aperçoit en fait qu'il n'est pas anormal, qu'il a juste une spécificité, bah, tout de suite, ça déclenche des choses.
Ouais.
Ça déclenche des choses. Vous le verrez, si vous le faites, vous verrez dans les yeux de votre enfant, il y a quelque chose qui va s'allumer. Et l'autre chose à faire aussi, c'est de se défaire des mythes, des croyances et des représentations autour du HPI. Le HPI n'est pas un facteur de génie. Et tous les génies sont des HPI, ils ont des capacités intellectuelles qui leur ont permis en fait de passer des frontières de la connaissance et de développer des idées créatives et innovantes, mais tous les HPI ne sont pas des génies, pour des raisons qu'on va expliquer plus tard, Mais donc, non, c'est pas parce que je suis un HPI que je suis censé être un génie. Donc déjà, on va pouvoir diminuer le niveau de performance attendu. Oui. Je suis pas obligé d'être Einstein. Je suis pas obligé d'être Thomas Pesquet. Je suis pas obligé d'être Pierre et Marie Curie. Non, je suis moi. Et avec cette boîte à outils qui est mon HPI personnel, je vais vouloir le développer et je serai moi et je ferai des grandes choses qui vont me satisfaire moi et je vais m'épanouir. Donc on diminue ce niveau de représentation. Les mythes, deuxième mythe, les HPI vont mal. C'est totalement faux. Il y a des choses dans l'histoire du HPI, un certain nombre de traumatismes et de rejets, qui font que oui, on a du mal à développer une estime de soi plutôt solide, consolidée, etc. Ou que dans la vie, on va avoir des accidents de vie que sont le harcèlement, que sont des ruptures, que sont des relations toxiques. Donc le HPI, en fait, est amené par son profil à être face à des accidents de vie, mais ils ne vont pas mal, en fait. C'est pas des gens dépressifs par nature. Mmh. C'est des gens qui font face à des défis de vie. Voilà. Et donc, non, il y a des HPI qui vont très bien. Il y en a deux autour du micro, déjà. Et donc, on peut rencontrer des HPI qui vont très bien. Et votre enfant n'est pas dépressif, par définition. Il est dans un moment dépressif et cynique qui est lié, en fait, au fait que son HPI lui fait voir le monde de façon extrêmement claire.
Et qu'il a des besoins spécifiques.
Et qu'il est dans un environnement qui, par nature, va pas y répondre. Et donc, il a un petit creux, on va dire, dépressif. Mais comme tous les ados, en fait, qui sont cyniques, qui sont un peu dépressifs, qui ont le blues de l'ado, là, ils sont tout mous, le monde est dégoûtant, ils veulent pas rentrer, bon. Mais donc, on n'est pas dépressif par nature. Donc, quand on est HPI, on diminue les représentations, on diminue les mythes, et en fait, on a toutes les clés pour être très heureux. Et si c'est un discours qu'on tient en tant que parent, eh ben, le HPI, en fait, l'enfant HPI, il est encouragé pour se sentir une valeur. Le HPI, c'est une pépite. C'est une pépite à l'intérieur de la roche. D'accord, c'est une poche de pétrole au fin fond de la terre. Vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous quand vous êtes HPI. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire sortir cette pépite de sa roche, de la tailler, de la façonner, de la laisser luire à la lumière. C'est d'aller perforer cette poche de pétrole et de l'exploiter pour que ça donne en fait de l'énergie, que ça donne de la richesse. Voilà. Donc le HPI, c'est une grande chance que vous avez hérité de la nature. Et donc, quand vous êtes un enfant HPI, que vous entendez ça, c'est de dire, allez-y, en fait. Bien sûr, vous avez des angoisses, bien sûr, vous avez des craintes, bien sûr, c'est un environnement qui vous est pas entièrement favorable, mais vous êtes équipé d'une boîte à outils, d'outils extrêmement performants, que sont la quête de sens, que sont la capacité à avoir une vision stratégique, que sont la révolte contre l'injustice. Vous avez beaucoup, en fait, d'atouts dans vos mains. Eh ben, allez-y les jeunes HPI, allez-y les parents HPI, en fait, jouez avec vos cartes qui sont des atouts extraordinaires dans la vie.
Je trouve que c'est une façon magnifique de terminer ce premier épisode. J'ai hâte d'écouter la suite avec toi. Du coup, bah, on va couper l'enregistrement maintenant.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me transmettre vos impressions et vos questions via LinkedIn ou l'adresse mail indiquée dans le descriptif du podcast. La semaine prochaine, nous parlerons de la communication chez les enfants HPI. Pensez à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. Enfin, si vous voulez en savoir un peu plus sur le travail de Franck, vous pouvez écouter son podcast intitulé « La voix rayée ».